Merci d'écouter RFI. Midi en temps universel, il est 14h ici à Paris.
RFI Midi.
Et c'est l'heure du journal de Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump face à Kamala Harris. C'était hier soir le premier débat présidentiel aux États-Unis. Et juste après ce débat, la candidate démocrate a reçu un soutien de poids, celui de la chanteuse Taylor Swift. Soutien accru à l'Ukraine. Le chef de la diplomatie des États-Unis est à Kiev pour répondre à la demande ukrainienne de missiles longue portée. L'ONU dénonce une nouvelle tentative d'intimidation d'Israël après la mise en joue d'un convoi des Nations Unies dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Et puis la formation du gouvernement la plus longue de l'histoire de France. Plus de 2 mois après les élections législatives, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, promet un gouvernement la semaine prochaine et ce sera, on le verra, sans la gauche.
RFI Midi.
La campagne présidentielle reprend aujourd'hui aux États-Unis après le débat d'hier soir entre Donald Trump et Kamala Harris.
Avec d'abord un hommage aux victimes du 11 septembre, c'était il y a 23 ans, et puis des déplacements dans des états clés de la présidentielle du 5 novembre en Caroline du Nord et en Pennsylvanie pour Kamala Harris et en Arizona et dans le Nevada pour Donald Trump. Alors hier, qu'a donc donné ce premier débat entre les deux candidats? C'est d'ailleurs la première fois qu'ils se rencontraient physiquement, en face à face. Eh bien, Donald Trump n'a pratiquement jamais regardé son adversaire, qu'il a traité de marxiste.
Tout ce en quoi elle croyait il y a 3 et 4 ans est tombé à l'eau. Elle va maintenant vers ma philosophie. Mais si jamais elle est élue, elle changera et ce sera la fin de notre pays. Elle est marxiste. Tout le monde sait qu'elle est marxiste.
Voilà, Kamala Harris, elle non plus n'a pas aménagé ses coups en rappelant qu'il avait fallu faire le ménage aux côtés de Joe Biden après le mandat de Donald Trump.
Et ce que nous avons fait, c'est nettoyer tout le désordre de Donald Trump. Je crois fermement que le peuple américain veut un président qui comprenne l'importance de nous rassembler et qui sache que nous avons bien plus en commun que ce qui nous sépare. Et je m'engage devant vous à être une présidente pour tous les Américains.
Alors, hier soir, après ce débat, Donald Trump a jugé qu'il avait livré son meilleur débat. Et de son côté, le mari de Kamala Harris lui a dit qu'elle avait gagné le débat, même si nous n'avons encore rien gagné d'autre.
Et juste après ce débat, la surprise, bonne surprise pour Kamala Harris, elle est tombée sur les réseaux sociaux.
Et oui, Taylor Swift, la chanteuse la plus populaire aujourd'hui aux États-Unis, peut-être dans le monde entier. Taylor Swift a annoncé à ses 280 millions d'abonnés qu'elle voterait Kamala Harris le 5 novembre, une candidate jugée douée et solide. Alors ce message de soutien peut-il avoir une influence sur l'élection? Élément de réponse avec Nicolas Roquin.
Sans inviter directement les Swifties, ces dizaines de millions de fans à voter Kamala Harris, Taylor Swift soutient pour la 3e fois le camp démocrate. Bien qu'attendu, cette annonce peut avoir une influence, selon Manuel Bocquier, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l'histoire de la musique populaire américaine.
Taylor Swift a un public tellement important, et notamment chez les jeunes, qu'elle invite justement à s'inscrire sur les listes. Et donc il peut y avoir un impact sur les inscriptions sur les listes électorales et le fait de ramener dans le camp démocrate un électorat jeune qui par ailleurs n'aurait peut-être pas voté. Et donc il peut y avoir un impact, mais c'est très difficile à mesurer.
Taylor Swift, vieille fille à chat. Voici comment l'artiste a signé son message de soutien à la candidature de Kamala Harris. Une manière de rappeler ses valeurs et d'exprimer son désaccord avec les propos misogynes tenus durant la campagne par J.D. Vance, le colistier de Donald Trump.
Elle a par ailleurs des prises de position de manière générale sur la défense des droits des minorités, la défense des droits des femmes, la défense du droit à l'avortement, des positions qu'elle fait connaître en dehors d'un soutien clair et net au Parti démocrate.
Taylor Swift est en pleine tournée nord-américaine avec 9 dates prévues aux États-Unis dans les tout derniers jours qui précèdent l'élection présidentielle.
Et Donald Trump vient de réagir. Taylor Swift, dit-il, va payer le prix de son soutien à Kamala Harris dans ses ventes de disques.
Un mot du Mexique, Florent, et d'une réforme très controversée.
Réforme finalement et définitivement adoptée hier soir à l'issue d'une journée chaotique. Les manifestants qui s'opposent à cette réforme qui doit permettre l'élection par un vote populaire de tous les juges du pays. Les manifestants ont pénétré dans le Sénat. Le Sénat a dû se délocaliser pour organiser son scrutin et finalement voter et adopter cette réforme.
Deux ministres des Affaires étrangères sont à Kiev aujourd'hui.
Anthony Blinken et David Lammy, les chefs des diplomaties américaines et britanniques, arrivés à Kiev en train de Pologne pour répondre à la livraison de missiles iraniens à la Russie et pour répondre aussi aux demandes répétées du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui voudrait pouvoir frapper le territoire russe. Franck Alexandre.
Volodymyr Zelensky le martèle à tout va, interdire à l'Ukraine l'usage de missiles de croisières occidentaux pour frapper dans la profondeur du dispositif adverse et donc sur le territoire russe équivaut à combattre avec une main dans le dos. Les réticences, notamment américaines, obligent Kiev à mettre en œuvre ses propres armements. Illustration il y a 15 jours avec la première utilisation réussie d'un nouveau drone missile à longue portée dénommé Palyanitsia. C'est une arme 100% maison, indique l'expert en armement Xavier Titelman.
Le Palyanitsa est un drone qui va porter entre 500 et 750 km, qui a une trajectoire surbaissée, qui est relativement furtif. Mais ces drones kamikazes, ces missiles de basse altitude, la grosse différence, c'est qu'ils ont une charge utile de seulement quelques dizaines de kilos d'explosifs, ce qui n'est par exemple pas suffisant pour être capable de striker, d'attaquer des centres de commandement, des dépôts de munitions enterrés. Pour ça, il faut des missiles balistiques qui ont une charge utile qui va être de plus de 100 kilos, ce qui est le cas de ce qui est fourni à la Russie par l'Iran et la Corée du Nord.
Après les États-Unis, les gouvernements français, allemand et britannique ont à leur tour condamné l'exportation par l'Iran de missiles balistiques qu'ils qualifient d'escalade et de menace directe pour la sécurité européenne.
Et à propos d'escalade, une déclaration du président irakien en accueillant le nouveau président iranien.
À Bagdad, nous refusons une extension du conflit en cours à Gaza pour assurer la stabilité de la région. Dans la bande de Gaza, un nouvel incident a opposé l'armée israélienne aux Nations Unies avec une mise en joue et même des coups de feu face à un convoi de l'ONU qui organisait une campagne de vaccination. Une nouvelle tentative d'intimidation dénoncée par les Nations Unies à New York, où siège l'ONU, correspondance de Karine Houghton.
Quatre camions se dirigeaient vers le nord de Gaza lundi avec une mission, vacciner les enfants gazaouis contre la polio. Une urgence puisque la maladie qui avait disparu du territoire palestinien a refait surface dans les campements de réfugiés. Ils ont été arrêtés et les soldats israéliens ont demandé à emmener deux membres du personnel palestinien parmi l'équipe de 12 personnes pour les interroger. Or cela est contraire au règlement de l'ONU, le porte-parole de l'organisation Stéphane Dujarric.
Ils ont été détenus pendant à peu près 7 heures. Un checkpoint de l'armée israélienne, malgré le fait que l'arrivée du convoi, la route du convoi, avait été coordonnée à l'avance selon le système en vigueur de coordination avec les forces de sécurité israéliennes. Il y a donc eu un face-à-face pendant lequel des tirs de semonce ont été tirés par les soldats israéliens. Il y a eu un effort avec des véhicules renforcés israéliens pour essayer de bloquer le mouvement des voitures onusienne.
Pour débloquer la situation, les responsables ont exceptionnellement laissé les soldats interroger leurs collègues sous leur contrôle. Mais l'ONU dénonce le manque de coordination entre le commandement israélien et ses unités sur le terrain de plus en plus fréquent. La campagne de vaccination doit continuer jusque demain. Karine Houghton, New York RFI.
L'actualité en France avec la suite du procès des viols de Mazan.
Ce procès qui rassemble les 51 hommes accusés d'avoir violé une femme, Gisèle Pellicot, droguée par son mari, Dominique Pénitaud. Il a été dispensé d'audience ce matin sur place à Avignon où se tient ce procès, Tanita Fallet.
Par les va-et-vient des avocats de la défense, l'agitation est palpable ce matin dans la salle d'audience. Après 30 minutes d'attente, l'information tombe, Dominique Pellicot ne sera finalement pas entendu. Il a été dispensé par le président de la cour à la demande de son avocate. Une expertise médicale doit être effectuée dans l'après-midi. Une audition très attendue, une fois de plus décalée, qu'il bouleverse le planning du procès. C'est finalement la personnalité de Monsieur Maréchal, accusé de viol sur sa propre femme, avec la complicité de Dominique Pellicot, qui a été examiné. La lecture du rapport de l'enquête de personnalité d'abord, le témoignage des deux enfants de l'accusé ensuite, des auditions rapides sans que le principal concerné ne soit entendu. Et pour cause, c'est ensuite au tour d'une enquêtrice de personnalité de deux autres personnes d'exposer ses conclusions. Décousu, le président de la Cour lui-même n'hésite pas à employer ce terme pour évoquer les débats. Traduction de la difficulté de gérer l'absence de Dominique Pellicot tout en tenant l'emploi du temps fixé. En fonction de son état de santé, Dominique Pellicot sera peut-être entendu demain. Tanita Fallet, Avignon, RFI.
Dans l'actualité politique française, une courte déclaration du Premier ministre Michel Barnier.
Déclaration à son arrivée aux journées parlementaires du groupe Horizon, le parti d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre qui est désormais candidat à la prochaine présidentielle. Eh bien, vous allez l'entendre, Michel Barnier semble décidé à prendre son temps pour composer son gouvernement. Après tout, les Français ont attendu plus de 2 mois la nomination du Premier ministre.
On fera les choses méthodiquement, sérieusement. J'écoute tout le monde et la semaine prochaine, on nommera le gouvernement.
Michel Barnier, il écoute tout le monde, enfin, pas vraiment tout le monde. Aurélien Devernois, le Premier ministre de droite, soutenu par l'extrême droite, se heurte à gauche à une succession de portes fermées.
Je ne participerai pas à un gouvernement qui ne respecte pas le vote des Français.
C'est la dernière en date à dire non, c'est non. La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, avait pourtant été sondée pour entrer au gouvernement. Mais cette opposante au patron du PS, Olivier Faure, sait qu'il y a plus de coups à prendre que de combats à gagner en se rapprochant d'un Michel Barnier qui, vous l'avez dit, ne doit sa nomination qu'à l'accord tacite de l'extrême droite. Même réponse du côté des sociodémocrates tendance Raphaël Glucksmann. Au Parti Socialiste et à la France Insoumise, on a même carrément refusé de se rendre à l'invitation du Premier ministre à Matignon la semaine prochaine. Le Parti communiste a lui accepté de rencontrer Michel Barnier, mais par simple politesse, dit-il. Toutes les tendances de la gauche et des écologistes ont surtout compris que l'orientation donnée par Emmanuel Macron en nommant Michel Barnier leur offrait une opportunité politique. On va taper fort sur le Rassemblement National qui s'est quelque part associé au nouveau gouvernement en refusant de le censurer, explique un dirigeant du Nouveau Front Populaire pour qui aujourd'hui il faut montrer que la seule vraie opposition, c'est la gauche.
Aurélien Devernois du service politique de RFI.
Un passionné de foot vient de mourir.
Le journaliste français Didier Roustan, il avait 66 ans, connu depuis les années 80, à l'époque où il dirigeait le magazine Mondial et où il présentait Téléfoot. Didier Roustan, ces dernières années, travaillait sur la chaîne L'Équipe, célèbre pour ses coups de cœur, ses coups de gueule et sa vision humaine, presque poétique du football, grand amoureux du foot sud-américain et en particulier argentin. Au lendemain de la mort de Maradona, vous allez l'entendre, c'était en novembre 2020, il racontait comment il avait créé avec la star argentine un syndicat de footballeurs.
Bon, j'ai fait en sorte qu'il puisse exister parce que c'était assez compliqué, si vous voulez. J'ai été le bras armé, mais c'était à l'initiative de Maradona. C'est son idée, c'est pas la mienne. Et à un moment, il s'est trouvé qu'on a eu une réunion avec Cantona, pour qui il avait beaucoup d'estime, et je l'ai fait découvrir Cantona, qui était un bon ami. Et tous les trois, on a discuté de ça, c'était en 95. Il était totalement en fin de carrière, c'était pour les jeunes, les enfants, et c'est parce que pour défendre ce sport, qui après est aux mains des commerçants et tout ça, parce que lui, il n'y a personne au monde, notamment de ce niveau, qui a pu aimer à ce point le football.
Didier Roustan à propos de Maradona, c'était sur TV5 Monde en 2020.
De la musique enfin, Florent, dans ce journal.
De la musique folk, rock, avec le Canadien Neil Young, 78 ans. Il vient de publier le 3e volume de ses archives, près de 200 chansons, dont 15 inédites et plus d'une centaine dans des versions jamais entendues encore. Edmond Sadaka.
Ce volume 3 couvre la période allant de 1976 à 1987, des années très prolifiques dans la carrière du chanteur. Parmi les quelques inédits, Lady Wingshot interprétée en public et en duo avec la chanteuse Nicolette Larson. Parmi les albums qui retrouvent la lumière, Trance, sorti en 1982, un disque qui fait la part belle aux nouvelles technologies. On est loin ici de la folk qui a fait le succès du chanteur, mais ce disque représente bien le côté précurseur avant-gardiste de Neil Young, selon Thomas Bouju. Il a réalisé un documentaire sur Neil Young intitulé « Les raisons de la colère ».
C'est extrêmement novateur, surtout avec 40 ans de recul. Neil Young est un amoureux du son, un amoureux de la technologie, ce qu'il rapproche même d'une certaine génération de musiciens beaucoup plus modernes. La seule personne qui était un fou de studio comme lui, à ma connaissance, c'était Prince.
Entre versions oubliées et rééditions en tout genre, Neil Young a aussi créé, au début des années 90, un site internet où il classe ses archives et qui est un véritable musée vivant. If you wake up with a worried mind, come with us and leave your troubles behind. Lay back and let your feelings show.
Sur RFI, il est 14h15 à Paris. Fin de ce journal, mais RFI Midi continue avec vous, Anne Cantoner.
Merci, Florent Guignard. Et on va parler de sport tout de suite. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Anne.
Vous nous parlez d'une figure, d'une voix du football en France. On l'a entendu il y a quelques instants dans le journal. Très connu en France et en Afrique, le journaliste Didier Roustan est décédé cette nuit. Il avait 66 ans. Il a succombé à une longue maladie.
Oui, c'était un grand amoureux, un romantique du football, de ses idoles, Pelé, Cruyff, Maradona, avec qui il avait même lancé un syndicat de joueurs dans les années 90.
C'est ce qu'il nous expliquait dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure,
effectivement. Didier Roustan, il avait dédié sa vie à ce sport, présentateur d'émissions, commentateur de matchs, chroniqueur avec son style des tenues vestimentaires, disons, originales, un ton très libre. Il était incontournable des plateaux de télévision, de radio. Il nous avait rendu visite, évidemment, à RFI, participant plusieurs fois à Radio Foot International. Annie Gasnier et ses équipes lui rendront hommage, d'ailleurs, bien sûr, tout à l'heure dans l'émission du jour, à partir de 16h10, temps universel.
Didier Roustan, grand amateur de football sur tous les continents et particulièrement donc en Amérique du Sud, où l'on jouait d'ailleurs cette nuit, Thomas.
Et son équipe favorite, c'était l'Argentine. L'Argentine privée actuellement de Léo Messi, qui est blessé, et qui a été battue 2-1 en Colombie pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, avec un pénalty très contesté par les Argentins et une défaite dure à avaler pour le sélectionneur de l'Albicéleste, Lionel Scaloni.
On est fâché dans le sens où on n'aime pas perdre, mais voilà, c'est fait. Après, on va dire que l'on ne sait pas perdre. Si, on sait perdre. C'est juste que ça fait mal. Des fois, cela tourne dans ton sens, des fois non, c'est comme ça. Mais c'est triste et dommage qu'après leur pénalty de la 60e minute, on ne pouvait quasiment plus jouer. Il y a eu trop de fautes, de jeux hachés, de temps gagné. C'est ce qui m'a gêné. C'est ma vision. Après, la Colombie a gagné, il faut la féliciter. Et voilà.
Ouais, c'est dit avec le cœur, hein, ça s'entend. En tout cas, les Argentins restent premiers de ces qualifications de la zone Amérique du Sud. 2 points devant les Colombiens qui prennent au passage leur revanche sur la finale de la Copa América.
Et ces deux équipes devraient se qualifier sans trop de problèmes pour le Mondial en Amérique du Nord. On ne peut pas en dire autant, en revanche, du Brésil.
Ah non, pas du tout. La Seleção défaite pour la 4e fois en 8 matchs. Battue cette fois par le Paraguay. 1-0, les coéquipiers de Vinicius ne sont que 5e du classement sur 10, avec le même nombre de points que le 6e et une petite longueur d'avance sur le 7e et le 8e. Les 6 premières équipes seront directement qualifiées pour la Coupe du Monde.
En Afrique, on jouait la fin de la 2e journée des éliminatoires de la CAN hier.
15 matchs, le grand détail dans Afrique Midi tout à l'heure. Retenez quand même que la Côte d'Ivoire, tenante du titre, a remporté face au Tchad sa 2e victoire en 2 journées. 0-0 entre le Zimbabwe et le Cameroun. Le Rwanda, c'est l'une des seules petites surprises, a tenu en échec le Nigeria sur ce même score de 0-0. Ça ne s'arrange pas pour la Guinée. 2e défaite, cette fois face à la Tanzanie. 3-0 pour l'Algérie face au Liberia. Et en parlant d'Algérie, sachez qu'Andy Delors, ancien attaquant de Montpellier, de Toulouse, de Caen. Deuxième au prix Marc-Vivien Fauet 2021. Andy Delors va rejoindre à 32 ans le championnat local d'Algérie. Il s'est engagé en faveur du Mouloudia d'Alger, entraîné par Patrice Baumel.
Merci Thomas de Saint-Léger. Toute l'actualité sportive est aussi sur internet, rfi.fr. Et puis vous nous le disiez Thomas, Radio Foot tout à l'heure, 16h10, temps universel.
RFI Midi, Le Monde à la mi-journée. Anne Cantner.
Je n'ai jamais vu de telles inondations. Voilà comment un habitant de Maïdougouri au Nigeria commente la situation du jour. Des inondations majeures, un barrage a cédé après des pluies torrentielles. Dans certaines parties de la ville, on ne voit plus que les toits dépasser de l'eau. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les intempéries sont si importantes cette année avec notre invité. Bonjour Benjamin Sultan.
Bonjour.
Directeur de recherche à l'IRD, vous êtes directeur adjoint d'Espace Dev et vous avez coécrit le 6e rapport du GIEC. Pourquoi est-ce qu'il pleut autant ?
Les inondations dramatiques qu'on observe actuellement en Afrique de l'Ouest, ça coïncide avec la saison de mousson dans la région. C'est un phénomène climatique et naturel qu'on retrouve chaque été, qui constitue souvent l'essentiel de l'apport d'eau pour l'agriculture, pour l'approvisionnement d'eau de la région. Donc c'est naturel. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que ça devient de plus en plus intense chaque année. Chaque année, ça provoque des inondations meurtrières, comme ce qui a pu se produire là au Sahel ou même aussi en Asie du Sud. Et le réchauffement climatique est sans doute pour quelque chose là-dedans, parce qu'on sait que lorsque l'air est plus chaud, il peut contenir plus d'humidité. Et à chaque fois que chaque degré supplémentaire va augmenter le contenu en vapeur d'eau dans en moyenne 7%, et donc c'est un excès d'humidité qui est dans l'atmosphère qui va occasionner des pluies extrêmement intenses. Et aujourd'hui, on a déjà donc réchauffé le globe d'environ 1,3 degré, et donc on a augmenté mécaniquement l'intensité des pluies.
Et est-ce qu'on arrive à estimer ce que ces fameux 7% d'humidité en plus que vous mentionnez représentent en termes de risques supplémentaires ?
Par exemple, en 2022, il y a eu déjà des inondations meurtrières au Nigeria, au Tchad, à peu près dans les mêmes régions qu'on observe cette année. Et il y a des scientifiques qui ont montré qu'avec le réchauffement climatique, on a rendu ces événements 80 fois plus fréquents qu'ils auraient pu l'être sans le réchauffement climatique et 20% plus intenses.
Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer d'inverser cette tendance ?
Alors, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs leviers. D'abord, il y a l'adaptation incrémentielle, c'est-à-dire essayer de s'adapter à chaque événement qui arrive. Donc, les prévenir, par exemple, il y a des systèmes d'alerte précoce qui font des prévisions d'inondations. Donc, par exemple, cette inondation a été prévue dès le mois d'avril par les centres météorologiques africains, en disant que ça allait être une année à inondation. C'est des prévisions qui peuvent être utiles, mais souvent, elles ne sont pas assez précises. On ne sait pas où et quand ça va se produire. Et puis, on a du mal aussi à évacuer certaines parties de la population qui peuvent avoir très peu de moyens pour se déplacer ou pour reconstruire. Ensuite, il faut adapter les villes, adapter aussi les zones rurales à ce nouveau climat. Donc, redimensionner des ouvrages comme les barrages. Donc, là, il y a un barrage qui a cédé. Souvent, ces ouvrages-là sont dimensionnés avec des normes climatologiques qui sont un peu anciennes, qu'il faut revoir.
C'est-à-dire qu'ils sont trop grands ou ils sont en mauvais état, des barrages, par exemple ?
C'est-à-dire qu'ils peuvent être en mauvais état, mais souvent ils ont été construits avec une climatologie qui date de il y a 30 ans. En fait, le climat a été modifié et continue à être modifié. Il faut revoir en fait ces normes-là avec un climat qui a changé et qui va continuer à changer à mesure qu'on réchauffe le climat. Donc ça, c'est un point important. Et puis après, l'autre point important, c'est qu'il faut faire le maximum pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que plus on va continuer à émettre les gaz à effet de serre, plus cette situation-là va s'aggraver en termes d'intensité, de fréquence d'événements extrêmes.
Vous nous avez parlé des barrages, vous mentionniez aussi tout à l'heure la construction des villes, le fait qu'il fallait revoir certaines choses. De quelle manière est-ce que l'urbanisme peut avoir une incidence sur l'ampleur des dégâts dans ces périodes de mousson ?
Je pense qu'il y a toute une révision des schémas d'assainissement de la ville qui doit être fait. Il y a dans certaines infrastructures, il va falloir construire des murs contre les inondations, contre des digues pour éviter que des villes soient inondées. Il faut aussi déplacer certaines infrastructures, certaines populations pour les éloigner de zones inondables, de zones qui sont devenues aujourd'hui inondables. Donc il y a tout un aménagement des villes qui est à faire aujourd'hui pour lutter contre ces inondations.
Et est-ce que vous avez l'impression que quelque chose est en cours ? Est-ce que les villes ont déjà lancé un certain nombre de plans d'adaptation et est-ce qu'elles ont les moyens de le faire ?
Oui, je pense que chaque année, en fait, les villes se construisent en résilience face au réchauffement climatique, donc essayent de s'adapter. Mais le problème, c'est que cela coûte cher. Donc, selon l'Organisation mondiale de la météorologie, le coût de l'adaptation est estimé à 2 à 3% du produit intérieur brut de toute l'Afrique. Donc, ça coûte extrêmement cher. Et puis, il faut aussi éviter la maladaptation. Donc, c'est-à-dire faire quelque chose pour lutter contre le climat, mais faire pire que ce qu'on croyait, en croyant bien faire. Donc, il y a un exemple en Afrique, au Sénégal, avec la langue de Barbarie, où on a construit à 20 km au sud de Saint-Louis, dans un parc national qui était très riche en biodiversité, la langue de Barbarie, très riche en oiseaux, en tortues, en poissons. On a ouvert une brèche de quelques mètres pour essayer de lutter contre les inondations de la ville de Saint-Louis. Et quelques mois plus tard, à cause des courants marins, elle faisait 3 km et ça a provoqué des inondations très intenses, des villages entiers qui ont été désertés et une modification irréversible du milieu. Donc, il faut faire très attention aussi dans l'adaptation pour le faire dans le bon sens et en écoutant bien les informations des scientifiques.
Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que ce type de décisions qui sont de mauvaises décisions à long terme, comme celle que vous nous présentiez à l'instant, qui a été mise en place au Sénégal, est-ce que c'est dû à un manque d'informations ou est-ce que c'est faute de moyens, tout simplement ?
Je pense que tous les canaux d'information n'ont pas été forcément bien activés. Il y avait des informations qui n'ont pas été bien communiquées aux autorités, des décisions qui ont pu être prises rapidement ou pour essayer de lutter contre des phénomènes à très court terme sans prendre en compte les effets de long terme. Et les difficultés souvent de l'adaptation, c'est de réfléchir un peu aux externalités négatives que ça peut entraîner sur d'autres facteurs. Donc on va lutter contre les effets du réchauffement climatique, mais on va en même temps aggraver des phénomènes sur l'environnement, par exemple, donc ou sur certaines catégories de population qu'on va rendre plus pauvres, qu'on va devoir évacuer. Donc, il faut vraiment penser à avoir une vision un peu systémique de l'adaptation et donc pas lutter trop au coup par coup en pensant que à la dimension climat.
Merci Benjamin Sultan, directeur de recherche à l'IRD et directeur adjoint d'Espace Dev. Vous avez aussi coécrit le 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
RFI Midi.
Reportage en Colombie à présent où toutes les prisons sont en état d'alerte. Ça fait 9 mois que ça dure, la situation est critique. Les établissements pénitentiaires sont surpeuplés, la violence omniprésente. On observe même une hausse de la criminalité et la corruption aussi est très répandue. Alors les autorités tentent de limiter le nombre de prisonniers, notamment en multipliant les ateliers de réinsertion, Najat Benraba.
À Medellín, dans la prison de haute sécurité de la ville, chaque semaine, une quinzaine de détenus se réunit pour un atelier pas comme les autres. Un atelier d'aide à la réinsertion sociale, Made in Prison.
Ce que nous faisons ici, c'est distribuer le matériel à chacun des prisonniers. L'idée est que chacun confectionne un bracelet autour des émotions qu'il pense être importantes pour avoir une vie équilibrée. Notre travail se base sur une approche dite de resignification. Comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, identifier les émotions et parvenir à les accepter, c'est fondamental. Alors par exemple, dans le cas d'Oscar, pour atteindre le bonheur, Oscar utilise ses propres ingrédients. Selon lui, pour avoir une vie équilibrée, il faut de l'amour, de la tranquillité, de l'optimisme, de l'orgueil, être pacifique et du courage. C'est un peu comme un tableau nutritionnel du bracelet. Donc chaque bracelet sera complètement différent.
Cet atelier permet aux prisonniers de fabriquer des bracelets qui seront ensuite vendus au profit de leur famille. Juliana Zuluaga, cofondatrice de Made in Prison.
Made in Prison est né d'une expérience douloureuse. Mon père a été privé de liberté pendant 5 ans et c'est ce qui nous a fait découvrir le système pénitentiaire en Colombie. On a vite subi les impacts économiques et émotionnels que la peine de prison engendre sur la famille, les doutes et les craintes lorsqu'il s'agit d'aller rendre visite à nos proches en prison. Malheureusement, quand le chef de famille, dans ce cas l'homme, entre en prison d'une certaine façon, c'est un impact qui va être vécu presque tel un effet domino sur le noyau familial. Pourquoi ? Parce que cela génère de la pauvreté, mais aussi une acceptation de la prison comme quelque chose de normal. Les enfants confrontés à cet univers vont grandir en pensant que c'est leur quotidien. Et enfin, d'autre part, on doit parler de thèmes difficiles comme la violence vécue et la violence observée.
Najet Benrabah, c'est un extrait du grand reportage qui sera diffusé aujourd'hui sur notre antenne, à écouter à partir de 19h40 temps universel et à retrouver quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Merci d'être avec nous sur RFI. Dans quelques secondes maintenant, toute l'actualité africaine.
RFI Akpalimé Mouagou 98.3 FM.